On va commencer. Bonjour à chacun. Donc, comme le programme l'indique, je parlerai aujourd'hui de Bernard de Clairvaux et de Buenaventure de Vagnoreggio. En fait, un petit peu de Bernard de Clairvaux, mais surtout de Buenaventure. Alors, Bernard de Clairvaux, vous avez les dates. Je ne le présente pas, il est très connu. Il parle d'un triple avènement du Christ, donc on commence à être habitué maintenant. Le premier et le troisième, dit-il, sont visibles. Et le deuxième, lui, est spirituel et caché. Dans le premier, Jésus-Christ est paru sur la terre et a conversé avec les hommes. Dans le dernier, il viendra dans la gloire et la majesté. Cet avènement intermédiaire, donc le deuxième, est donc comme une route qui mène du premier au dernier. Dans le premier, Jésus-Christ est notre rédemption. Dans le dernier, il sera notre vie. Dans celui-ci, c'est-à-dire celui que nous vivons maintenant, qui nous permet de dormir entre deux héritages, il est notre repos et notre consolation. Moi, il dit autrement ce que je déclinais entre allégorie, le premier événement, tropologie, ce qui se passe maintenant, et anagogie, ce qui vient. Pour Bernard, le dernier événement est celui du jugement et de la résurrection des corps. Et il dit ceci, « À son arrivée, le Sauveur reformera donc l'humilité de notre corps sur le modèle de son corps glorieux. Si toutefois, notre cœur a d'abord été reformé sur l'humilité de le modèle de son cœur. Ce qui est vraiment important ici, c'est que la résurrection des corps pour Bernard est centrale. Et elle est si importante, il a une telle conscience de l'unité corps et âme, que ça aura une influence sur la manière dont il comprend les âmes séparées des corps. Lors de la mort, pour Bernard, les âmes sont libérées de leur misère, mais continuent de désirer leur corps. Et cela constitue un obstacle à leur parfaite adhésion à Dieu. Et donc, il se met à penser que les êtres humains ne peuvent jouir entièrement de la vision béatifiante avant d'avoir été réunis à leur corps par la résurrection. La privation du corps, pour Bernard, est un obstacle à la totale présence à Dieu. Bernard n'était pas si original que cela. Il avait reçu cela d'Ambroise, d'Augustin, de Grégoire le Grand. Alors dit-il, quelle est la condition des âmes sorties de leur corps? Nous les croyons totalement plongées dans cet immense océan de l'éternelle lumière et de lumineuse éternité. Mais, ce qui est admis, si ces âmes conservent la volonté de retrouver leur corps, si elles en nourrissent le désir et l'espérance, leur changement n'est pas absolu, puisqu'elles gardent en elles des préoccupations qui ramènent encore leur attention sur elles-mêmes. La difficulté, c'est qu'elles ne sont pas complètement tournées vers Dieu parce qu'elles désirent encore récupérer leur corps. Par conséquent, tant que la mort ne sera pas absorbée dans sa victoire, que les dernières ombres de la nuit n'auront pas été pénétrées par l'éternelle lumière, et que l'éclat de la gloire céleste n'aura pas inondé les corps mêmes, ces âmes seront incapables de se déployer tout entières, de passer en Dieu, étant liées encore, sinon par la chaîne de la vie et des sens, au moins par une affection naturelle, sans laquelle elles ne veulent ni ne peuvent, les deux sont importants, vouloir y pouvoir atteindre le dernier terme de leur transformation. Le corps, en effet, n'est ni quitté ni repris sans profit pour l'âme. Donc vraiment, pour Bernard, l'union du corps et de l'âme, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et il n'admet pas, la tradition ultérieure de l'Église n'ira pas dans son sens, qu'il y ait une vision béatifique avant la résurrection des corps. Et la différence entre l'âme qui a repris son corps ou qui ne l'a pas, c'est entre, comme entre le boire et s'enivrer, dit-il, ou bien comme entre un vin non pur et un vin pur et nouveau. Dans un sermon pour la fête de tous les saints, il précise le lieu où se trouvent ces âmes. Il dit, ça vous l'avez dans la citation, mais je vais un peu plus vite, et se trouve en fait sous l'autel. Donc elle ne se trouve plus dans le lieu des ténèbres, complètement séparée de Dieu, mais pas complètement non plus avec Dieu dans la lumière. En fait, elle voit l'humanité de Jésus. Son humanité glorieuse, mais son humanité. Pas encore Dieu en tant que Dieu. Et lorsque la résurrection des corps arrivera, à ce moment-là, les âmes vont pouvoir voir Dieu en tant que Dieu. Donc l'autel dont il est question dans l'Apocalypse, nous en avons parlé, pour Bernard représente l'humanité du Christ. À la mort, enfin à la résurrection des corps, eh bien, elle passe au-dessus de l'autel. Alors, c'est quand même un lieu de rafraîchissement. C'est pas terrible, parce que quand même voir le Christ, c'est pas mal. Mais on voit bien que c'est pas encore cela. Ce n'est pas encore la vision du Fils sous sa forme de Dieu, et ce n'est pas encore la vision de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la vision, dit Bernard, ça c'est assez beau, l'âme s'élève au-delà de l'incarnation de l'humanité de Jésus-Christ. Et donc le ciel sera le lieu où la Trinité sera vue face à face. Le ciel consistera à être plongé et absorbé dans les profondeurs infinies de la source divine, parmi les félicités éternelles, en des flots qui se succéderont sans interruption. Vous voyez ici aussi, on a une idée un peu comme du voir de Nice, d'un mouvement. Alors, je vous lis quand même la citation. Ce ciel sera un lieu de délices, où les justes sont abreuvés d'un torrent de plaisir. Un lieu de clarté où les saints brillent comme les astres du firmament. Lieu d'allégresse où leur cœur déborde d'une joie éternelle. Lieu d'abondance où rien ne manque à ceux qui l'habitent. Lieu de suavité où le Seigneur montre sa douceur à tous les bienheureux. Lieu de paix où il a établi sa demeure. Lieu d'admiration où les œuvres de Dieu déploient toutes leurs merveilles. Lieu de satiété, où la vue de la gloire divine nous rassasiera. Lieu de vision, où nous apparaîtra un spectacle admirable. Et la jouissance de Dieu se fera de trois manières. Nous verrons donc Dieu dans les créatures, en nous-mêmes, et la Trinité en elle-même. Donc, tel que Dieu est en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Dieu va remplir toute notre raison, tout notre irascible, notre concupiscible. Alors, qu'est-ce que c'est l'irascible et le concupiscible? Le concupiscible, c'est l'attrait qu'on a vers le bien. L'irascible, c'est cette même chose, mais en tant que ce bien peut être ardu à obtenir, difficile à obtenir. Le corps possédera, là, il est très classique par rapport à ce qu'on a déjà vu, l'immortalité, l'impassibilité, l'agilité et la beauté. Bernard dit aussi qu'à côté du ciel, il y a deux autres lieux, le purgatoire et l'enfer. Je cite, « Il est trois lieux de résidence assignés aux âmes des morts, selon leur mérite, l'enfer, le purgatoire, le ciel. Dans l'enfer vont les impies, dans le purgatoire ceux qui gardent encore quelques souillures, dans le ciel les âmes parfaites. Ceux qui sont en enfer ne peuvent être rachetés, parce que là, plus de rédemption. » Ceux qui sont en purgatoire attendent de la délivrance, mais il leur faut avant être torturés par les ardeurs du feu, la rigueur du froid, et toute autre douleur sensible. Ceux qui sont au ciel trouvent la joie dans la vue de Dieu. Ils sont frères de Jésus-Christ par la nature, ses cohéritiers dans la gloire et ses compagnons dans les joies de l'éternité. Vous voyez ici, Bernard assume pas mal des pères et en même temps, il cherche aussi. J'en viens maintenant à Saint Bonaventure. Saint Bonaventure, moins connu que Saint Thomas d'Aquin, mais il en vaut la peine profondément. Franciscain, et il a étudié et enseigné à Paris, à l'Université de Paris, en même temps que Saint Thomas d'Aquin. Ils sont tous deux morts la même année. Saint Thomas d'Aquin en allant au Concile de Lyon, et Saint Bonaventure à la troisième session du Concile. L'œuvre de Saint Bonaventure est assez importante, et moi je vais m'attacher à ce qu'il a intitulé le Brevilocium, donc une parole brève, un bref discours. C'est un petit livre, donc assez bref, de théologie, et le but de ce livre est de répondre à une double difficulté. La première, c'est que, vous savez, à l'époque, quand on faisait la théologie, comme ici, il s'agissait de commenter l'Écriture. C'était la première chose qu'il fallait faire. Et donc, on n'arrêtait pas de commenter l'Écriture dans tous les sens. Mais pour beaucoup des étudiants, l'Écriture semblait une forêt obscure dans laquelle ils ont peur de se perdre. C'était la première difficulté. La deuxième difficulté, dit-il, c'est que la doctrine que l'Écriture expose est transmise d'une façon telle qu'on risque de ne pas la comprendre comme il faut. Alors on voit bien ce qu'il veut dire, en même temps on voit aussi quand c'est trop court. Alors dans la première difficulté, Bonaventure y répond dans son prologue, il fait tout un petit traité sur l'herméneutique de l'Écriture. Très intéressant sur ce que c'est que la théologie. Et la seconde, il développe en fait les points essentiels de la foi. Il ne veut pas traiter de toutes les vérités à croire, mais seulement de celles qui sont les plus utiles. Je vous lis ce qu'il écrit. Parce que la théologie traite de Dieu du premier principe, parce que comme la science est la doctrine la plus élevée, elle résout toutes choses en Dieu comme dans le principe premier et souverain. Dans l'assignation des raisons, en tout ce qui est contenu dans ce petit traité. Je me suis efforcé de chercher l'explication dont les premiers principes, c'est la traduction du livre, en fait, on peut dire à partir du premier principe, pour montrer ainsi que la vérité de la Sainte Écriture vient de Dieu, traite de Dieu, est conforme à Dieu et à Dieu profond. De façon justement que cette science apparaisse une, ordonnée et non à tort, nommée théologie. Donc il essaye de faire une synthèse. Donc, pour comprendre l'Écriture, il faut connaître le principe des choses, Dieu, leur création, leur chute, la rédemption par le sang de Jésus-Christ, la réformation par la grâce, la guérison par les sacrements, et enfin la rétribution par la peine et la gloire éternelle. Donc ici, vous avez en fait les sept parties du Brevilocium. Je reprends. La Trinité, la création et la chute, la rédemption, l'incarnation, la grâce du Saint-Esprit, la rédemption, les remèdes sacramentés, le jugement dernier. Je vous redis une fois.
Oui.
Trinité, création, corruption du péché, 3, 4, incarnation, 5, grâce du Saint-Esprit, 6, les remèdes sacramentels, 7, le jugement dernier. On voit ici que Bonaventure part de Dieu pour arriver à Dieu. Dans ce mouvement, plusieurs choses sont essentielles. Il faut tout d'abord comprendre que tout part du premier principe. Dieu est vu comme le premier principe. 3 et 1. Et alors il dit, donc il va toujours jouer sur 3 et 1. Dieu est le principe effectif de la création, le principe exemplaire dans la rédemption, le principe perfectif dans la sanctification, l'Esprit Saint. Vous voyez donc qu'on a Père, Fils et Saint-Esprit. Création, principe effectif, Fils, principe exemplaire, Saint-Esprit, principe perfectif. Donc, toujours pour Bonaventure, tout se comprend à partir de la Trinité, à laquelle justement la créature, donc l'homme, ressemble de trois manières, peut ressembler de trois manières. Alors, quelles sont ces trois manières? Il va parler des traces de la Trinité en l'homme, de l'image et de la ressemblance. Traces, image, ressemblance. Toute créature porte la trace de Dieu. Alors, il appelle ça vestigium, certains traduisent par vestige. Quelles sont les trois traces? Cette trace, c'est que la chose est, deux, qu'elle est connaissable, trois, qu'elle est bonne. Et donc ça, c'est l'imitation la plus lointaine de la créature de Dieu. La manière la plus lointaine dont la créature imite Dieu. Déjà là, Bonaventure explique qu'il y a vraiment une dépendance de la créature envers Dieu. Ensuite, donc ça c'est la créature en tant qu'objet. Alors maintenant, en tant qu'elle est ordonnée à Dieu, elle est image de la Trinité, donc ici image, comment? Eh bien, dans la mesure où la créature intelligente, on parle de l'homme ici, pas de tout être créé, a conscience de soi en soi, conscience de soi en soi, est ouverte au connaissable, est capable d'aimer ce qui est bon. Et donc l'homme repose en soi grâce à sa mémoire, il est capable de connaissance grâce à son intelligence, et d'amour grâce à sa volonté. Donc on voit ici que Bonaventure parle de l'homme pour l'image en tant qu'il est capable de quelque chose, comme Dieu est capable de quelque chose. Et donc, elle était ordonnée à Dieu ici en tant qu'objet moteur. Dieu se meut. Ici aussi, la créature intelligente peut se mouvoir. Troisième chose, c'est la ressemblance. Mais c'est là Dieu qui vient dans la créature et qui se donne lui-même. Et cela se manifeste par les trois vertus qu'elle égale, la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi est-ce que je fais un détour par là? Parce que ces trois modes montrent que l'homme ne se comprend toujours que par rapport à Dieu, à différents niveaux. Donc tout se comprend par rapport au principe premier. Je vous lis la citation que vous avez. La créature ne peut avoir Dieu pour principe sans lui être configurée, selon l'unité, la vérité et la bonté. Elle ne peut avoir Dieu pour objet sans le saisir par la mémoire, l'intelligence et la volonté. Elle ne peut posséder Dieu comme don infus sans lui être configurée par la foi, l'espérance et la charité, qui sont le triple don. On appelle donc la première le vestige, la Trinité les traces, la deuxième, image, et la troisième, ressemblance. Donc Dieu est le principe de l'homme, il est son objet, et il est ce vers quoi il va. Si l'homme est complètement configuré à la Trinité, ça signifie que le Christ est l'axe de la création et de l'histoire, que l'Esprit Saint y associe. Donc la tâche de l'âme sera toujours de collaborer à l'action trinitaire dans l'histoire pour parvenir justement à la ressemblance, c'est-à-dire de collaborer à l'action de Dieu. Voilà un petit peu pour la manière dont il comprend l'homme et l'action de l'homme. Un petit mot sur la manière dont Bonaventure écrit ce petit traité, donc qui est vraiment très bref. Il se libère de l'alignement fastidieux des citations et de la méthode scolastique des questions. Si vous avez déjà lu par exemple la Somme théologique, vous avez une question, des objections, 7 contrats, réponses, et puis réponses à chacune des objections. Et Bonaventure, ici en tout cas, se libère complètement de cela pour simplement affirmer la foi et expliquer la logique interne. Alors, ce qu'il dit est en étroit lien avec le commentaire des sentences. Hein, il exprime la même doctrine, mais de manière différente. Et donc, Bonaventure cherche à être didactique, synthétique, logique et spéculatif. Alors souvent, nous, en tout cas en théologie, aujourd'hui avec les spéculatifs, on a assez bien de difficultés. Donc les trois dernières qualités, synthétique, logique et spéculatif, peuvent nous rebuter. Si on n'est pas habitué à ce langage abstrait, si on peine à voir ce que les mots signifient réellement, ou si on lui projette des choses que le théologien n'aimait pas, ou si on veut tout de suite trouver une saveur. L'écriture donne tout de suite de la saveur. Pas de langage spéculatif. Donc ce sont les faiblesses, ces trois qualités. C'est la force, c'est la faiblesse. Et donc, quand on lit le Brevilocium, au premier coup d'œil, ça peut sembler vraiment très arbitraire et très sec. Si, en arrière-fond, on n'a pas fait tout un travail avec l'écriture et la tradition de l'Église. Pour Bonaventure, la théologie n'est en rien une spéculation aride. Il suffit de lire d'autres de ses œuvres. Hein. La vie de Saint François est composée d'eux. C'est savoureux. Vous lisez les autres œuvres, vous voyez bien que c'est plein de saveurs franciscaines. Mais alors ici, vraiment, il est parti dans la spéculation pour aider les étudiants. Et pour dire brièvement les choses de manière le plus logique possible. Profondément, Bonaventure, c'est un contemplatif, c'est beau ça je trouve, qui n'a pas peur de la spéculation, car il sait que la spéculation conduit à la pratique. Normalement, il a prié. Mais on ne va pas le voir directement quand on lit son petit chef-d'œuvre. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il procède? Il expose l'énoncé de la foi, voilà la foi dit ceci, et puis il explique. Et il donne la raison par une concaténation logique. Je vais vous donner un exemple tout le temps. Et toujours, toujours, l'explication est cherchée dans le principe premier. Et à l'aide de la raison, il entend montrer la cohérence de la foi, à l'aide de la rigueur logique de la raison. C'est là sa force, c'est là sa faiblesse aussi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur ce qu'il dit, une remarque sur le vocabulaire. Si vous allez trouver l'équilibre, il vous lisez, il utilise des mots qui aujourd'hui hérissent le poil spontanément, jugement, punition, châtiment, peine, etc. Il faut essayer de redresser ses poils, de ne pas se laisser effrayer, mais de vouloir aller plus loin, de ne pas se laisser prendre toujours par un premier élan affectif qui est bien compréhensible d'ailleurs. Parce que si on part là, on va se dire, mais en fait, il ne voit là qu'un Dieu violent, sévère et dur. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que le vocabulaire qu'il utilise donne l'impression que c'est Dieu qui punit, qui châtie, etc., qui fait tout. Et c'est vrai que c'est Dieu qui agit. Mais quand on lit la manière dont il articule les choses et qu'on voit un peu l'intérieur, on remarque qu'en fait, tous ces mots durs à entendre, c'est une autopunition que l'homme s'inflige. Donc on a les deux à l'intérieur. C'était ça amusant. C'est l'homme lui-même qui se punit, qui se fait souffrir en refusant Dieu. C'est l'homme qui se châtie, si vous voulez. Et Dieu laisse l'homme porter les conséquences de ses choix. Il les sanctionne au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il reconnaît la vérité, la réalité, et permet et veut que l'homme puisse vivre ce qu'il a voulu. Alors, je reprends le breviloquio. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la dernière partie du livre, le jugement dernier. Enfin, c'est comme ça qu'il intitule. Et ce jugement dernier, il le divise en 7 chapitres. Je vous les donne. Premièrement, l'état du jugement final. Deuxièmement, le purgatoire. Troisièmement, les suffrages de l'Église. Quatrièmement, la conflagration des feux. Cinquièmement, la résurrection des corps. Avant-dernier, la peine de l'enfer. Et enfin, la gloire du paradis. Donc, il pose le jugement et il dit tout d'abord ce qui va précéder le jugement, donc le purgatoire et les suffrages des âmes du purgatoire, pour les âmes du purgatoire, ce qui va accompagner le jugement, la conflagration des feux et la résurrection des corps, et ce qui va suivre le jugement, l'enfer ou le paradis. Oui, donc vraiment plusieurs étapes. Ce qui est amusant, c'est que quand on voit la manière dont la somme théologique a été poursuivie, donc saint Thomas d'Aquin n'a pu terminer la somme théologique, et dans la somme manque le traité des fins dernières. Et donc celui, le disciple saint Thomas, qui, en reprenant des choses saint Thomas, a articulé les questions, les a repris selon ce mode-là, avant, pendant, après. Alors, je parle du jugement final. Pour expliquer qu'il y a un jugement universel, et pour expliquer ce qu'il implique, donc de nouveau, hein, comme je l'ai expliqué, Bonaventure parle du principe premier. Et il dit, je vous préviens, c'est spéculatif, que Dieu est par soi, selon soi et pour soi. Je vais expliquer. Ça signifie, j'explique le plus compliqué, qu'il est efficience, forme et fin. Mais je vais encore expliquer. Pas pour le plus compliqué. Donc pour un peu comprendre cela, c'est bon de se rappeler les causes d'Aristote. C'est là qu'on commence à comprendre les choses. Donc il en distingue 4. La cause matérielle, formelle, motrice, qui va être appelée efficiente. Et la cause finale. Alors, que sont ces causes? La cause matérielle désigne ce dont la chose est faite, sa matière. Hein, d'où provient une chose et de quoi elle est faite. La cause formelle est la réalisation, la raison, pardon, qui a réalisé ses déterminations. Donc, quelle est sa forme, si vous voulez, ou le modèle qu'elle imite, la cause formelle. La cause motrice ou efficiente, c'est ce qui a produit, c'est la chose importante, produit le changement. Donc quel est le principe ou le mouvement qui a donné naissance? Et la cause finale, c'est ce en vue de quoi la chose est faite. Dans quel but? Si je prends l'exemple d'une statue, qui est un exemple classique, ça va être... pour la cause matérielle, le marbre, pour la cause efficiente, la cause formelle, pardon, l'idée du sculpteur, ce qu'il a pensé. La cause efficiente, c'est le sculpteur lui-même. Et la cause finale, c'est avoir une œuvre d'art, l'œuvre d'art. Alors je reprends les définitions. On avait dit que Dieu est par soi. S'il est par soi, ça veut dire qu'il est cause de lui-même. Donc il est cause efficiente de lui-même. S'il est efficience, il est puissance. Dieu donc produit la créature, il la produit comme une image douée de raison et de volonté. Et il la crée, on est vraiment dans la création, dans la production ici, capable de béatitude et capable de s'orienter vers sa fin par sa raison et par sa volonté libre. Voilà les choses vues à partir de la cause efficiente. On voit bien que Dieu donne à l'homme une certaine efficience lui aussi. Dieu est selon soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il est cause formelle. Être selon soi-même, c'est se donner sa forme. Si il est sa forme, il est sa vérité. Donc Dieu fait les choses selon lui, selon lui-même. Donc il gouverne la créature selon la rectitude de sa vérité. C'est la loi, si vous voulez, qui l'invite à la béatitude. Donc il va l'instruire de cette vérité et il va l'obliger à la justice sans contraindre évidemment la liberté de l'homme à suivre la justice ou pas. Mais il va lui dire, mais voilà, tu es selon moi et selon toi, c'est ça ta réalisation. Enfin, Dieu est pour soi. Ça veut dire qu'il est cause finale. Et donc, s'il est fin, s'il est la fin, c'est qu'il est bon. Oui, on commence à retrouver les choses. Hein. L'être, la vérité, la bonté. Et donc, tout se consomme, trouve son accomplissement en Dieu, selon la plénitude de cette bonté et selon les exigences, évidemment, de la puissance et de la vérité. Oui, Dieu a créé en vue de cela et Dieu est la forme aussi qui est donnée. Et donc, selon cela, la consommation ne peut se faire qu'en fonction de ce qui a précédé. Donc, selon la cause efficiente et la cause formelle. Et du coup, est-ce que l'homme a suivi cela ou pas? Donc la consommation va dépendre de cela. Donc d'une part, il accorde la béatitude à ceux qui ont observé la justice en écoutant la vérité et préféré le bonheur suprême au bien transitoire. Et ceux qui ont refusé, il ne le fait pas. Alors puisque justement les volontés demeurent secrètes, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait un jugement qui va manifester la sublimité, dit-il, de la puissance, la rectitude de la vérité et la plénitude de la bonté. Vous voyez, il est extrêmement logique, il déploie un à un les points. Alors, il y a des questions de mérite. Le jugement, c'est reconnaître les mérites aussi. Alors, comment on comprend cela? S'il y a des mérites, eh bien, il faut que les choses apparaissent clairement. Qu'il soit très clair ce qu'il fallait faire et ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a une dimension à la fois transcendantale, de manifestation de ce qui est, et sociale. Parce qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc, chacun va reconnaître la justesse du jugement. Et c'est comme ça que Bonaventure comprend l'ouverture des livres de vie. Enfin, s'il y a un jugement, il faut que ce jugement soit proclamé. Par qui peut-il être proclamé? Ça ne peut pas être directement par Dieu en tant que Dieu, visible en tant que Dieu, puisque ceux qui ont refusé Dieu ne peuvent pas le voir lui-même, puisqu'ils sont opposés à lui. Il faut donc que le juge apparaisse sous forme humaine, sous forme de créature, donc humaine. Donc il faut que le juge soit à la fois homme et Dieu. Donc il faut que le Christ apparaisse en tant qu'homme. Vous voyez comment il arrive vraiment à son raisonnement. Voilà pour le jugement. Bonaventure apporte ensuite le purgatoire et les suffrages de l'Église, donc ce qui précède le jugement. Pour expliquer le purgatoire, il décline deux qualités du principe premier, la bonté et la perfection. Donc tout est vu à partir de ces deux qualités du principe premier de Dieu. Dieu est bon, il aime le bien et il récompense. Et il déteste le mal. C'est le port de la bonté que ne pas aimer le mal. Et donc le mal ne peut pas rester impuni. Une fois qu'il a posé cela, il dit « Chaque faute a trois effets. Elle va détériorer la relation à Dieu, la relation à la communauté humaine et à soi-même. » Et donc, il va perdre chacune de ces détériorations, ces trois détériorations, une offense à Dieu, un dommage infligé aux autres, et une difformité par rapport à soi-même. Offense, dommage, difformité. Donc, je développe. Le désordre du péché offense la divine majesté, et donc, dit-il, requiert un châtiment. Alors, dit comme ça, c'est inaudible. On va développer. Le désordre, le péché est un désordre en soi, puisqu'on est ordonné à Dieu. Le désordre fait tort à l'Église. Donc, il occasionne un dommage qui exige une satisfaction. Enfin, il déforme l'image divine inscrite en notre esprit. Il crée donc une difformité qui appelle une purification. Et donc, Bonaventure réfléchit à la peine qui découle du fait que l'homme est en relation avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Donc, il y a une peine qui découle de relation à Dieu, une satisfaction que demande la relation aux autres, et une purification qui provient d'une relation à soi inajustée. Et vous voyez bien, c'est comme une seule et même réalité qui est déclinée, décrite sous différents aspects. C'est une seule et même réalité qui est à tour considérée comme peine, satisfaction ou purification. Donc c'est des remèdes qui vont être appliqués. Alors, Bonaventure essaie de comprendre comment l'ordre a été violé par le péché et comment il est restauré. Je prends le premier. L'offense qui est due au fait que l'homme s'est trahi lui-même, l'homme était ordonné à Dieu, mais il s'est détourné de Dieu, il a préféré un bien inférieur au bien souverain qu'est Dieu. La peine, qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence de la préférence désordonnée de l'homme. Toute personne qui aura préféré des biens inférieurs à Dieu sera soumise à ceci. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'elle l'a choisi. Donc, la peine dérive des êtres qui ont occasionné la faute. c'est-à-dire des biens inférieurs. L'âme subira, d'une manière ou d'une autre, son désordre, dit Bonaventure, donc son désordre comme révolte de l'univers à son égard. Donc, on voit bien ici, le châtiment ou la peine n'est d'une certaine manière pas dû à Dieu, mais au lien que la nature humaine a contracté avec le bien inférieur. Parce que justement, l'ordre de nature unit l'âme au corps pour lui donner la vie, l'ordre de la justice, affirme Bonaventure, va l'unir au feu matériel. Il va la punir de cette manière. Alors, quand on entend ça, on bondit. À cet endroit, Bonaventure n'explique pas. Donc, je ne vais pas l'expliquer maintenant. J'expliquerai plus tard, parce qu'il en parle plus tard. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'est vraiment dans la... on dit tout le temps, on répète, que l'âme sera punie par un feu, au purgatoire par un feu corporel. Et donc il y a plein de questions, saint André Pierre n'arrête pas, tous les théologiens sont confrontés à cette question-là. Donc je vous la livre parce que c'est comme ça. Alors il dit quand même, la peine sera proportionnée à la gravité de son péché et à la légèreté de sa pénitence passée. Donc la longueur et la vivacité de la peine seront fonction du péché. Comment je me suis engagé dans les choses ? Donc ça, c'est pour l'offense. Maintenant, prenons la satisfaction, hein, qui est liée au dommage. La question est suivante, comment on va satisfaire au dommage causé aux autres, puisque, d'une part, la liberté du vouloir, la satisfaction demande une liberté du vouloir, et d'autre part, obligatoirement, on ne peut plus rien mériter. C'est dans son corps qu'on mérite. Donc comment fait-on ? La réponse aussi peut faire bondir. Il dit, c'est par l'acuité des souffrances. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est la douleur du repentir. La douleur qu'on éprouve d'avoir commis le mal. Alors, parce que les âmes du purgatoire possèdent la grâce et qu'elles ne peuvent pas la perdre, la bonne nouvelle quand même, c'est que cette souffrance n'est pas vécue dans la tristesse. Parce que les âmes du purgatoire savent qu'elles vont aller à Dieu. Elles ne sont pas du tout dans le désespoir. Donc, le tourment des âmes du purgatoire, selon Bonaventure, est plus léger et bien différent que celui de l'enfer. Dernière chose, on avait parlé de difformité. La peine, la même peine, est purifiante, elle est d'ordre spirituel. En fait, la peine et la satisfaction vont enlever la difformité due au rapport à soi qui est inadéquat. Et Bonaventure termine ce chapitre en disant, dès que la purification est accomplie, l'esprit reçoit aussitôt le don de la gloire. Je passe au suffrage de l'Église. Il faut que j'aille un peu plus vite. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, vous voyez que le purgatoire relevait surtout de l'ordre de la justice. Le suffrage de l'Église montre plutôt la douceur de Dieu. Donc, la souffrance est juste, parce que c'est ce que l'homme a voulu, mais comme il est dans l'ordre de la charité, eh bien, l'aide est normale. Et donc, si les âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles-mêmes, elle est compensée par l'activité des autres. Et de cette manière, en fait, elle respecte la justice et la miséricorde. Dans les suffrages, alors les suffrages qu'il nomme sont le jeûne, la prière, l'aumône et la célébration de l'Eucharistie. Qui est la meilleure chose ? Effectivement, il n'explique pas pourquoi, mais c'est le sacrifice du Christ. Donc, la beauté du funérailles n'aide en rien. C'est juste pour la consolation des vivants. Donc, alors je passe un petit peu, mais Bonaventure explique comment les suffrages vont sauvegarder l'honneur de Dieu, donc de nouveau par rapport à Dieu, aux autres, à soi-même. Ils vont respecter le gouvernement de l'ordre de l'univers. Le gouvernement de l'ordre de l'univers dans le sens que mais ça ne peut pas être utile aux damnés, puisqu'ils se sont séparés du corps de l'Église. Or, la communication se fait par le corps de l'Église. Ça ne sert à rien aux saints, puisque non plus. C'est plutôt eux qui prient pour nous. Donc, c'est vraiment pour les âmes qui sont en purgatoire. Et enfin, ces suffrages vont honorer les mérites, puisqu'ils vont être plus efficaces à ceux qu'ils ont davantage mérités. La conflagration des feux. Alors, conflagration, ça vient du latin. Conflagrare, ça veut dire que tout est en feu. Ici, on pourrait être surpris. C'est une pensée peut-être à laquelle on est moins habitué. Mais ce que Bonaventure met en évidence, c'est le lien entre l'homme et l'univers. Il y a une solidarité. La solidarité se vérifie dans la création, dans la chute. Et donc il dit, elle se vérifie aussi dans la perturbation de l'univers, dans son besoin de purification, de rénovation et de consommation. Si il y a vraiment cette vérité, ce que l'homme vit doit arriver à l'univers aussi. Et comme ça se passe par le feu, mais tout se passe par le feu. Pourquoi par le feu? Il dit, parce que le feu est ce qui est une purification la plus rapide possible. C'est comme ça qu'il le voit. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée. C'est qu'il cherche ce qui est le plus respectueux de l'homme, le plus rapide pour le faire moins souffrir. J'avance un petit peu, et j'arrive à la résurrection des corps. Pour expliquer la résurrection, Bonaventure part de nouveau du principe premier, mais en tant qu'il est principe de trois choses, de la nature, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant, de la grâce, c'est-à-dire qu'il est clément, et de la rétribution, qu'il est juste. De nouveau, ici, on ne peut pas séparer les trois domaines, les trois modes de voir les choses. La rétribution doit être conforme à la justice, à la grâce et à la nature. Et donc, il va montrer que ces trois principes exigent la résurrection des corps. Puisque Dieu est cela, il en découle que l'homme a mérité ou démérité dans son corps. Donc il est juste qu'il soit récompensé ou puni dans son corps. Et la justice doit paraître avec certitude et clarté. Donc la rétribution et la consommation doivent se faire simultanément. Et puisque ça doit être simultané, eh bien, tous les hommes ressuscitent en même temps. Évidemment, la résurrection des bons et des méchants ne sera pas semblable. Les premiers vont mériter la gloire, les autres la paix. Les bons vont ressusciter pour la vie, les méchants pour le supplice, avec leurs infirmités, leurs difformités et leurs défauts, dit-il. Ensuite, en raison de la grâce, principe de la grâce, mais c'est le Christ. L'Église est unie au Christ. Si les membres sont unis à la tête qui est le Christ, à ce moment-là, eh bien, ce qui est arrivé à la tête doit arriver au corps. Donc, les bons vont ressusciter comme le Christ, dans de meilleures conditions, dans l'intégrité et l'équilibre des membres. Les défauts seront supprimés. Je vous laisse la citation, vous l'avez. Troisième principe, la rétribution. Non, c'est la nature, pardon. Donc, puisque l'homme est corps et âme, l'achèvement de la nature demande qu'il soit réuni par une imperfection. La rétribution, c'était que l'homme avait péché dans son corps, mais qu'il faut aussi que le corps ait la rétribution. Ici, on a la nature, donc il a inversé les sens. Donc, Il dit, de par la puissance de Dieu, l'esprit vivifiera son propre corps, car l'âme exige par nature de posséder un corps pour lui influer perpétuellement la vie. Et donc, parce que l'homme va donner, l'âme va donner au corps sa vie, le corps sera incorruptible, immortel et constitué de toutes les parties. Je passe aux peines de l'enfer, ça c'est le moins drôle. Alors, petite remarque, il ne termine pas par là. Il termine par la gloire du paradis parce que c'est ça qui est espéré. Et il commence par souligner une chose très importante. Le principe premier est juste. Dieu est profondément juste, infiniment juste. Et il dit qu'il possède cette justice à un degré infini. Or, souvent, quand nous pensons à l'enfer et qu'on pense à la peine qui en résulte, on se dit, mais c'est pas juste. Donc, Bonaventure fait bien de souligner cela au tout début de sa réflexion. Donc le péché sera puni, l'homme sera jugé conformément à la rectitude et à la droiture. Le péché sera puni selon la grandeur de la faute, et il dit surtout ceux qui auront méprisé sa miséricorde. Il agira en fonction de la faute, en sa racine, et des circonstances aggravantes. On pense toujours que, souvent que les circonstances
vont
diminuer les choses, mais parfois les circonstances aggravantes. Et donc, dans l'enfer, c'est surtout la justice de Dieu qui se manifeste. Attention pour nous à ne pas plaquer souvent nos idées de justice arbitraire sur Dieu. Ça ne tient pas. Pas ici en tout cas. Donc, l'impénitence finale, le mot est fort, l'impénitence, c'est-à-dire que le refus de se repentir jusqu'au bout, succède à la faute mortelle. Une faute qui a complètement coupé de Dieu, et cette faute constitue un désordre perpétuel, voluptueux. Alors, en latin, la racine, c'est libidineux, si vous voulez, et divers. Et donc, à ce désordre va correspondre, puisque la faute est perpétuelle, voluptueuse et diverse, une pénalité éternelle, douloureuse et multiforme. Donc, Bonaventure, avant d'aller plus loin, précise que l'enfer ne peut être la peine que de celui qui a commis une faute mortelle et qui a refusé jusqu'à la fin la miséricorde. Donc il va développer un à un les trois points, perpétuel, voluptueux et divers. Perpétuel, c'est-à-dire donc, que la peine va durer toujours. Le péché sépare de Dieu qui est la vie éternelle. En fait, il analyse assez bien le péché dont la manière dont il est commis, mortel en temps, procède de la volonté qui voudrait jouir toujours de son péché. Il y vient toujours. Donc, l'enfer n'est que la conséquence logique d'un mal voulu délibérément, auquel on n'a pas voulu mettre fin et qu'on n'a pas regretté. C'est une volonté délibérée qui n'en démord pas, si vous voulez. Et parce que l'homme a péché contre l'infini, la peine est infinie. Elle va durer sans cesse. Après la mort, l'âme adhère toujours au mal. Parfois, on imagine que dans l'enfer, les âmes et les années, s'il y en a, regrettent ce qu'elles ont fait. En fait, non. Elle ne regrette rien. C'est pour ça que c'est perpétuel. Il n'y a pas de repentir. Et parce qu'il n'y a pas de repentir, ben, la peine ne peut pas changer. Voilà par rapport au caractère perpétuel. La voluptuée, la volupté, ou c'est, si vous voulez, la jouissance du désordre, fait que la peine est douloureuse et afflictive, ou affective, on peut dire. Mais oui, l'âme s'est détournée du bien suprême pour se tourner vers le bien inférieur en méprisant Dieu, et donc elle s'est précipitée dans un lieu inférieur, loin de la gloire, c'est-à-dire en enfer. Et l'affliction, la douleur dérive de la soumission à la nature inférieure. Et donc elle est corporelle. Donc Dieu soumettra ainsi l'âme au châtiment. Vous vous souvenez comment il fallait comprendre le châtiment? Soumission à un bien inférieur et la douleur qui en résulte. Et alors il dit, je vous lis quand même ce qui est marqué, ce qui est écrit, la torture du péché sera atroce car indissolublement liée au feu. Il en éprouvera toute l'horreur d'une répulsion naturelle et sensible, d'une appréhension que Dieu intimera. L'appréhension, l'action du feu sera proportionnée à la gravité du péché, de la dette et de la souillure due au plaisir désordonné. Donc, il ne sera pas égal pour tous. Dans ce sens, on comprend mieux les tableaux de Jérôme Bosch. Ce feu brûle toujours sans se consumer, il afflige sans détruire. Ensuite, la diversité, troisième point, va occasionner une diversité de peines. L'aversion, donc le refus dérivé de la lumière de la bonté infinie, implique la privation de la vision de Dieu. Logique. C'est ce qu'on appelle la peine du Dham, D-A-M. La conversion déréglée vers les biens transitoires, c'est ce qu'on appelle la peine du feu. Et le désordre de la volonté qui était contraire à la conscience, en fait, c'est ce qu'on appelle la peine du ver. Le ver qui ronge. Les trois peines, du dham, du feu et du ver. Alors, le paradis quand même. Donc, dernier chapitre, Bonaventure parvient enfin à la gloire du paradis. Une triple récompense, qu'il appelle substantielle, consubstantielle et accidentelle. Je vais développer. D'où est-ce qu'il sort ces choses? Plutôt pour l'expliquer, il est de nouveau le principe premier, le principe est un, vrai et bon. Et de l'unité, la vérité et la bonté, il décline quatre qualités, les qualités de puissance, de sagesse, de clémence et de justice. Alors, puissance, sagesse, clémence et justice. La puissance du principe premier se manifeste dans la production de la création, la vérité dans le gouvernement par l'organisation du monde, la bonté dans la restauration par l'incarnation et la rédemption, la justice dans la rétribution consommée. Alors, il développe cela en trois temps. Il met d'abord la puissance et la justice ensemble. Il dit cela implique la glorification des justes. Pourquoi ? Mais les justes se sont consacrés tout entiers à la Trinité dont ils sont l'image, dont ils sont capables. Et s'ils se sont donnés tout à Dieu, mais il n'y a que Dieu qui peut être leur récompense, qui peut être leur accomplissement, leur achèvement. Et donc les justes sont rendus déiformes. Ils le verront clairement par leur raison. Ils vont l'aimer pleinement par leur volonté et ils vont le retenir pour toujours dans leur mémoire. Donc, l'âme sera configurée, unie à Dieu et va se reposer en lui. Vous voyez, mémoire, intelligence, volonté, mémoire se reposer, l'intelligence configurée, la volonté, l'union. Et donc, ces trois choses impliquent la satiété, la lumière et la paix. Donc, c'est ce que Bonaventure appelle la récompense substantielle du paradis. La vision, la fruition et la possession de Dieu. Vision, fruition et possession. Dieu serait face à face, c'est-à-dire nu sans voile. La récompense, donc ça, c'est, elle correspond à la puissance et la justice, mais il faut qu'elle corresponde aussi avec le gouvernement ordonné, avec la vérité. Puisque le corps a été créé pour être uni à l'âme et lui être soumis, eh bien, l'âme ne sera pleinement heureuse que quand elle va retrouver son corps, quand il lui sera redonné. Donc, selon la logique du gouvernement, selon la vérité, l'âme doit être, le corps, pardon, doit être soumis et conforme à l'âme en tout point. Autant qu'évidemment un corps en est capable. Et donc, à la vision de lumière de l'esprit, son être extrêmement spirituel, son impassibilité de l'esprit, sa promptitude, si vous voulez, à tendre vers Dieu, tout cela va rejaillir sur le corps. Donc Dieu est dans l'âme, et l'âme prend possession de son corps, et donc le corps va avoir la clarté, la subtilité, l'impassibilité et l'agilité. C'est vraiment dû à l'union avec l'âme, et de l'âme surtout avec Dieu qui permet cela. Et donc, je trouve ça formidable, le corps sera capable de suivre parfaitement l'esprit. Il sera parfait en lui-même, conforme à sa demeure céleste, conforme à l'esprit béatifié. Ça, c'est la récompense consubstantielle de la gloire céleste. Dernière chose, qui est assez amusante, il reste la restauration glorieuse. La bonté. La bonté, c'est la manière dont la liberté s'est engagée dans la charité. Donc, en plus de la gloire de l'âme et du corps, il convient que les justes héritent, je cite Bonaventure, d'une certaine excellence d'honneur et de joie proportionnée à l'excellence de leur perfection et de leur splendeur dans l'activité vertueuse. Et cette récompense-là, Bonaventure l'appelle la récompense accidentelle ou l'auréole. Cette excellence se manifeste dans la manière correspondante aux trois dynamismes de l'âme. Alors, quel type d'auréole? Eh bien, il y a la raison, le désir et l'effort. De la raison découle la prédication de la vérité. Du désir, la continence virginale. De l'effort, le martyr. Donc, auront donc une auréole les prédicateurs, les vierges et les martyrs. Et cette auréole touchera la beauté de l'âme et du corps. On voit qu'il y a donc comme des degrés au ciel, l'aspect de la gloire sera conforme au mérite. Et on comprend beaucoup mieux le tableau de Jan van Eyck à la cathédrale Saint-Bavon à Gand. C'est pas simplement une lubie d'artiste. Il dit des choses théologiques très justes et très vraies. Bonne soirée.